Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Lardeur de l'équipe Podcasting.
Lune s'est dressée, les reins creusés, la croupe arrondie, elle caressait son opulente chevelure. Tandis que les autres, au milieu des gerbes jaillissantes et argentées de pluie de gouttelettes irisées, s'ébattaient. Ce délicieux passage, tiré du livre La Légende de l'île de Ré, écrit par Louis Giraudeau en 1925, il est possible de le lire dans votre article, Anne Buchen. Bonjour.
Bonjour.
Le chant des sirènes en eau naufrageuse. Voilà pour le titre de votre papier, à retrouver dans le dernier numéro du Festin sur les mythes et les légendes du Sud-Ouest. Cet extrait dont les sirènes sont les sujets est tout à fait représentatif de la promesse que vous faites au lecteur, Anne Buchen, celle de la découverte de l'estuaire de Gironde, le plus vaste d'Europe, écrivez-vous, avec le regard, ou plutôt l'esprit, dirais-je, baigné dans les imaginaires de toutes les époques. Pour une fois, il faut le dire, nous ne recevons pas une journaliste au micro de Podcasting, mais une anthropologue de l'Université de Bordeaux. Vous vous intéressez aux traditions populaires à travers la pensée. Nous reviendrons sur vos activités un petit peu plus tard. Vous êtes une passionnée de l'univers féerique et fantastique, des imaginaires populaires dont vous narrez ici si bien l'histoire sur 5 pages, largement agrémentée par des tableaux divers. Et là aussi, nous reviendrons sur ces peintures et ces illustrations qui nourrissent vos propos. Mais avant de tremper les pieds dans l'océan Atlantique en compagnie de ces sirènes, expliquez-nous comment l'idée d'écrire un article à leur sujet vous est-elle venue ?
C'est en fait la revue Le Festin qui m'a contactée parce que pour leur numéro de décembre, ils cherchaient un article sur les sirènes et les naufrages en Charente-Maritime. Et ils ont certainement vu que j'avais déjà publié sur le sujet des articles, notamment sur les fées, les sirènes, les géants, donc sur les créatures fantastiques. J'ai tout de suite été intéressée par le projet. J'ai accepté, évidemment, comme j'avais déjà fait des recherches sur les sirènes et même sur les naufrages. Mais ça, c'était juste... hasard.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse se trôner les tessiles. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre.
Alors, Anne Buchen, vous avez réalisé un travail de recherche. L'article est référencé, sourcé. D'après vous, quel est l'ouvrage le plus ancien faisant mention des sirènes ?
Je ne suis pas sûre que ce soit l'ouvrage le plus ancien, mais je pense tout de suite évidemment à l'Odyssée qui a été écrit par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce récit, on retrouve déjà, donc c'est le récit d'Ulysse qui rencontre des sirènes, et on y voit déjà le thème des légendes de sirènes qu'on va retrouver par la suite, donc leur association notamment au rocher. Ce qui est intéressant, c'est que Homère a dû très certainement s'inspirer de traditions de son époque qui sont du coup très certainement bien plus anciennes. Et donc le thème des légendes de sirènes a au minimum quelque chose comme 3000 ans et peut-être beaucoup plus.
L'extrait que j'ai lu en début d'épisode vient donc du livre de Louis Giraudeau qui parle d'une légende, d'un groupe de sirènes. Il y a aussi une autre légende dont vous parlez, celle de la repentie. Vous y consacrez une belle partie dans votre article. Pouvez-vous nous en expliquer les grandes lignes ?
Alors, la Repentie, c'est le nom, en fait, d'une plage qui se trouve au nord de La Rochelle, et donc qui a un nom assez curieux. Et pour l'expliquer, on a raconté au moins deux légendes. Dans une de ces légendes, il s'agit d'un couple de pêcheurs qui habitent une jolie maison. Ils ont une belle propriété le long du rivage. Ils ont plusieurs enfants. Et un jour, ils remontent dans leur filet une sirène. La sirène les implore de lui rendre sa liberté, mais malgré tout, la femme décide de la garder, de la ramener chez eux, malgré les menaces de la sirène, qui leur dit qu'ils vont, surtout la femme va s'en repentir. Quelques temps après, d'après la légende, la mer envahit le rivage, et elle a emporté avec elle la belle propriété, le mari, les enfants et la sirène. Et donc la femme s'est retrouvée seule et s'est repentie, d'où le nom de la plage. Ça, donc, c'est une légende fantastique. Il y a une autre légende qui pourrait être un tout petit peu plus rationnelle, on va dire. C'est une autre histoire, l'histoire de la Grimarde, qui tenait aux environs de La Rochelle une auberge dans laquelle elle accueillait des naufrageurs, c'est-à-dire des espèces de pirates qui provoquaient des naufrages pour piller les bateaux. Et donc, la Grimarde était quelqu'un auparavant qui était tout à fait gentil et normal, mais son fils ayant disparu, elle a été aigrie, elle est devenue méchante et impitoyable. Donc, d'après l'histoire, la Grimarde a accompagné une bande de naufrageurs sur une plage. Là, ils ont attiré un bateau en pleine tempête qui est venu s'écraser donc sur le rivage. Ils ont attiré ce bateau avec une lanterne, et les quelques rescapés qui sont arrivés sur le rivage ont été directement massacrés par les naufrageurs et par la Grimarde. Mais à la lueur d'un éclair, elle s'est rendue compte que l'homme qu'elle était en train de tuer était son fils, donc disparu, qu'elle croyait mort. Donc, elle s'est repentie de son action. Elle a changé totalement de vie. Et à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle venait pleurer sur la plage où avait été enterré son fils. Et du coup, un jour, on l'a trouvée morte, on a trouvé son corps sur la plage, qu'on a appelé, en souvenir de cet événement, la Repentie. Donc, il est très probable que ces deux légendes soient inventées, mais c'était très intéressant pour moi parce que ça permettait de faire un point de départ pour des légendes qui allaient concerner aussi bien les sirènes que les naufrages.
Alors, il faut les décrire, ces sirènes mi-femmes, mi-poissons. Ce sont des créatures qui effraient, qui rassurent aussi parfois. Qu'incarnent-elles vraiment dans l'imaginaire des marins ?
Il est vraisemblable que pour les marins, elles incarnaient évidemment le charme, la beauté féminine, donc dans un monde d'hommes, hein, puisqu'il y avait très peu de femmes, voire aucune, sur les bateaux, que ce soit de pêche ou les bateaux de voyage ou long cours. Donc pour eux, ça devait incarner la beauté, le charme, l'attirance, mais aussi les dangers, parce qu'on soupçonnait les femmes de fourberie. Donc ça incarnait aussi donc effectivement les dangers de la mer. Il ne fallait pas se laisser envoûter, fasciner par la mer, il fallait rester vigilant. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans les légendes de la Charente-Maritime, souvent, c'est l'histoire de sirènes qu'on essaye de capturer, que ce soit pour les épouser ou pour des raisons qu'on ne connaît pas trop, comme dans la légende de la Repentie. Et là, donc, ça donne l'impression que ces légendes mettent en garde aussi contre le côté imprévisible de la mer, contre le fait que c'est un élément sauvage. Donc, il faut encore une fois rester toujours vigilant pour aborder les voyages en pleine mer au large.
Les légendes se nourrissent de la réalité, évidemment. Du XVIIe au XIXe siècle, dites-vous, les nombreux naufrages alimentent la peur de croiser en haute mer ces créatures magiques. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Oui, en fait, les côtes de la Charente maritime sont très dangereuses. La navigation est très dangereuse parce qu'il y a beaucoup de zones rocheuses. Et c'est aussi un endroit, une zone où il y a un passage vraiment très important, que ce soit des bateaux de marchands ou des bateaux de pêcheurs, parce que c'est un des chemins naturels, je dirais, pour arriver jusqu'à la Gironde et puis plus loin jusqu'à Bordeaux, qui jusqu'au moins au XVIIIe siècle était le port le plus important de France. Donc il y a vraiment à cette zone, dans cette zone-là, du coup, beaucoup de naufrages. Pour donner un exemple, il y a des données dans un article d'un auteur qui s'appelle Jacques Perret, qui a étudié la période qui va de 1680, si je me souviens bien, à 1780, donc sur un siècle. Et je pense qu'il a dû répertorier environ 540 naufrages sur cette période, juste sur cette petite zone donc de Marennes, qui se trouve pas loin de l'île de Léron. Donc c'était encore une fois une crête constante, d'autant plus, mais là aussi on va en parler, qu'il y avait cette peur des naufrageurs.
Vous vous êtes plongé dans des écrits dont d'ailleurs les hommes en sont pratiquement toujours les auteurs. Comment décrivent-ils ces sirènes ? Y a-t-il au fil des siècles une évolution dans ce récit ?
Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé vraiment à des périodes très reculées, parce que déjà, on n'a pas nécessairement de sources écrites. Mais si on remonte à l'époque donc, d'Homère et à son récit donc, de la rencontre d'Ulysse avec les sirènes, il faut savoir que dans la Grèce antique et dans la mythologie grecque, les sirènes, en fait, étaient des femmes à corps d'oiseau et pas à queue de poisson. Donc, il y a déjà eu une... c'était finalement assez logique de les imaginer avec des queues de sirènes, et c'est l'image qu'on en a eue quand on va vraiment avoir des sirènes en grand nombre dans le folklore de la France notamment. Et même là, il y a encore eu une certaine évolution, je trouve, parce que quand on regarde les dessins et les représentations des sirènes au Moyen-Âge, on les voit encore souvent avec des nageoires dorsales, avec des nageoires, qu'on ne va plus voir à des époques plus récentes, où c'est plutôt une queue, je dirais presque entre la queue de serpent et la queue de poisson, qui est très longue. Et puis évidemment, mais ça c'est dû au style de dessin qu'on voit au Moyen-Âge, selon nos critères actuels, les sirènes n'étaient pas nécessairement très attirantes. Par contre, dans notamment les peintures du 19e siècle, on va voir qu'elles vont devenir vraiment comme on les imagine de nos jours, donc avec une moitié supérieure de femmes plutôt attirantes.
Oui, d'ailleurs, pour que nos auditeurs comprennent bien, les sirènes sont représentées le plus souvent seins nus. Pourquoi ?
C'est ça. Mais comme je vous disais, c'est pas nécessairement avec des poitrines opulentes comme on les a imaginées plus tard. Là, ça ne ressemble pas à grand-chose, à vrai dire. Mais donc oui, il y a ça qui a changé. Mais on peut imaginer peut-être que c'est dû au fait qu'au Moyen-Âge, c'était les gens d'église, les hommes d'église qui écrivaient les livres, qui faisaient les copies, les moines copistes, et qui les illustraient. Et a priori, ces gens d'église n'étaient pas censés, en tout cas, fréquentaient beaucoup les femmes. Et donc, on peut peut-être imaginer qu'ils n'étaient pas tellement au fait de ce qui pouvait être attirant chez les femmes. Mais en même temps, encore une fois, c'est certainement aussi un peu des conventions dans les dessins de l'époque, hein, qui se ressemblaient finalement un peu tous. Et donc, dans certains dessins, on a presque l'impression que c'est une moitié de femmes qui sort de la bouche d'un poisson. Parce que, comme je vous disais, on reconnaît beaucoup plus le corps du poisson avec les nageoires. Et il a tendance à être plus court dans la plupart des dessins médiévaux.
Vous avez découvert autre chose de tout à fait intéressant, c'est l'habitude des habitants du littoral de l'estuaire de Gironde à longer les côtes les jours de tempête. Que découvrent-ils lorsqu'ils font ces balades et en quoi c'est intéressant pour eux ?
Donc les populations qui vivaient, mais pas uniquement le long de l'estuaire, c'est vrai pour toutes les zones côtières, les populations étaient souvent très pauvres et c'était des milieux qui n'étaient pas propices notamment à la pousse des arbres, puisque c'était souvent des zones de falaises, ça pouvait être des dunes ou des plages, ou dans la région de la Charente-Maritime, il y avait énormément de marais. Or, ces populations pauvres avaient besoin de bois pour construire leurs cabanes, pour se chauffer, mais ils n'avaient du coup pas les moyens d'en acheter. Et donc, c'était intéressant pour eux d'aller, comme ils disaient, aller à la coste, les jours de tempête ou les jours qui suivaient, parce que ça leur permettait de ramasser sur les plages des débris des navires naufragés, des morceaux de toile, enfin, tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Donc, ces gens n'étaient pas très dangereux, en fait, pour les naufragés, et c'était vraiment important pour leur survie. Dans leur mode de vie, c'était d'habitude un peu peut-être sombre pour nous, un peu inquiétante, mais c'était pas très dangereux. Par contre, on parle aussi de pilleurs d'épaves, où là, c'était des gens qui se mettaient en bande, qui formaient des bandes et qui allaient essayer de désosser les navires naufragés, qui volaient tout ce qu'ils pouvaient emporter, qui en arrivaient même à menacer les rescapés, qui essayaient de protéger les biens du bateau, voire même les commissaires de l'amirauté, qui étaient très vite envoyés sur place et qui aussi devaient protéger le navire. Et là, très souvent, les pilleurs les menaçaient. Ils essayaient donc d'éviter qu'il y ait des témoins gênants. Et ils n'hésitaient pas d'ailleurs à détrousser les cadavres. Par contre, a priori, ils ne commettaient pas de meurtre. Ce dont on accusait justement les naufrageurs qui, d'une part, provoquaient les naufrages, mais on raconte aussi donc qu'ils tuaient les rescapés.
Nous éloignons un petit peu du texte pour nous rapprocher de la maquette de l'article. Il est ponctué par 10 images précisément, des tableaux, des illustrations. Et il y a un tableau qui attire le regard, celui d'Elisabeth Jerichow-Baumann, intitulé sobrement « La sirène », qui est daté de 1873 et qu'on le retrouve dans un musée à Copenhague, la capitale danoise. Pourquoi avez-vous choisi ce tableau ? Et d'abord, pouvez-vous nous le décrire ?
Alors, tout d'abord, c'est un tableau qui m'a été proposé par l'équipe du Festin et que j'ai tout de suite beaucoup aimé et que j'ai adopté parce que d'abord, esthétiquement, je le trouve très, très beau. Donc, ce qu'on voit, c'est à l'arrière-plan du côté gauche, on voit des falaises. On voit que la mer est calme, mais le ciel est quand même nuageux, donc on ne sait pas trop si c'est après une tempête ou si une tempête s'annonce. Et les têtes sont en dominant dans les bleus, les gris et les roses. Et à l'avant-plan, on voit une sirène qui est confortablement installée sur un rocher. C'est la position qu'on imagine toujours pour les sirènes. On n'a pas dans les légendes une vraie idée de leur mode de vie, en fait. On ne sait même pas de quoi elles se nourrissent. Très souvent, dans les légendes, elles sont comme ça, confortablement installées. Et elles attendent apparemment des marins pour essayer de les séduire. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette image, c'est que comme dans les légendes du Moyen-Âge, si on voit bien le haut du corps de la sirène, sa queue est assez dissimulée sous l'eau. Ce que j'ai bien aimé, enfin, dans cette image, c'est les cheveux de la sirène, parce que quand on y fait un peu attention, on voit que sur ses cheveux, mais autour d'elle aussi, il y a des herbes marines, mais aussi des petits débris d'algues et de choses comme ça, et qui rappellent le côté donc sauvage des sirènes. Il ne faut pas se fier à leur apparence de femme, ce sont des créatures sauvages, en fait.
Et cette sirène nous regarde droit dans les yeux.
Exactement, c'est ça. Et là aussi, c'est un peu l'idée, en tout cas à mon avis, qu'on se fait des sirènes qui, encore une fois, qui attendent et qui se préparent à séduire des hommes de mer.
Il n'y a pas que les sirènes dans votre article, il y a aussi le destin de ces naufrageurs et naufrageuses. Que font-ils et qui sont-ils ?
Alors, les naufrageurs, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des gens qui essaient d'attirer les navires vers la côte en espérant qu'ils viennent se fracasser sur les rochers ou échoué sur une plage. Ce sont des légendes, en fait, des histoires qu'on raconte partout. Il y a des zones côtières et rocheuses en particulier. Et dans la région de la Charente-Maritime, ce sont des légendes qu'on raconte beaucoup, notamment au sujet de l'île de Léron, où on dit qu'on faisait tanguer l'âne, c'est-à-dire que les naufrageurs emmenaient leur âne, dans d'autres régions ça pouvait être des vaches ou d'autres animaux, ils les emmenaient sur les côtes, donc du côté des plages ou sur les falaises, ils attachaient à leur cou une lanterne, et puis ils entravaient légèrement les pattes de l'animal avec une corde, ce qui fait qu'il avait des difficultés à marcher, et ils faisaient osciller la lanterne, donc du large. Lors des tempêtes et des nuits très sombres, évidemment, sinon ça ne risquait de ne pas marcher, on avait l'impression du coup que, comme il y avait un bateau, la côte n'était pas proche. Et on espérait du coup les attirer, les amener, comme je vous disais, à faire un naufrage. Donc c'était très, très... ce sont des histoires qu'on a racontées beaucoup au sujet de l'île de Léron, si bien que l'étymologie n'est pas exacte, mais que certains ont dit que le nom de l'île de Léron venait de l'île des Larrons. Et pour l'île qui se trouve tout près, donc l'île de Ré, on a dit que le nom venait de Isla Reorum, qui signifie l'île des coupables.
Que sont devenues les sirènes à Nambucken ? Avant, c'était des vrais mythes, des vraies légendes, redoutées par les marins, on l'a bien compris. Leurs images sont de nos jours presque commerciales, voire policées.
Mmh. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un phénomène qu'on voit avec d'autres créatures fantastiques, puisque je me suis intéressée notamment aux fées. Et en réalité, on ne le sait pas toujours, mais les fées étaient plus anciennement des créatures plutôt inquiétantes, qu'il fallait craindre, et, les rencontrer portait malheur. C'est vrai aussi pour la Gironde, c'est vrai aussi pour la Dordogne, notamment quand on s'intéresse un peu aux légendaires de la Dordogne, on se rend compte que les fées sont souvent difficiles à différencier des sorcières dans les légendes. Donc il y a un phénomène qui fait que maintenant, au moins on croit aux fées, en plus on les imagine comme des créatures plutôt sympathiques, des petites créatures ailées. Et c'est exactement la même chose pour les sirènes. Au fur et à mesure qu'on n'y croit plus, on a oublié que c'était à l'origine des monstres marins et on les représente de plus en plus comme des créatures là aussi sympathiques, romantiques, qui ne cherchent plus à séduire les marins pour les noyer, mais plutôt qui vont tomber même amoureuses de certains hommes. Et c'est ce qu'on voit dans les contes de fées et aussi dans les films d'animation, par exemple.
Pour ne pas citer la fée Clochette ou la petite sirène, deux exemples de monstres marins qui ont été détournés, c'est ça ?
Finalement, cette image de fée avec des petites ailettes, on s'éloigne un peu des sirènes, mais c'est intéressant parce que c'est relativement récent. À l'origine, les fées étaient plutôt des femmes d'apparence tout à fait normale qui ne se différenciaient des autres femmes que par leur aspect. Elles sont souvent décrites comme belles et aussi par leurs activités. Elles filaient beaucoup et elles ne faisaient finalement pas grand-chose de leur journée. Donc voilà, c'est la transformation donc, de ces êtres qui souvent dans le légendaire étaient effrayants, voire malfaisants, et qui, comme on le disait tout à l'heure, deviennent de plus en plus sympathiques.
Le chant des sirènes en eau naufrageuse, voilà pour le titre de votre article à retrouver dans le dernier numéro du Festin paru en décembre 2022 et destiné aux légendes et mythes du Sud-Ouest. Merci à Nambucken d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.